Merci d'écouter Info RC. Il est temps de retrouver des élèves du lycée Marcel Gimond d'Aubenas pour leur magazine.
Actu Terme.
Actu Terme.
Bienvenue dans l'émission Actu Terme, une émission des terminales en spécialité sciences économiques et sociales du lycée Marcel Gimond à Aubenas. L'objectif est de les préparer au grand oral. Chaque semaine, un élève doit présenter un sujet d'actualité dans le domaine économique, social ou politique. La présentation se fait devant la classe, sans notes, en minimum 3 minutes. Le but est double. D'une part, améliorer ses performances oratoires, sa diction, sa posture.
Actu Terme.
Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui touche à la fois l'économie, la politique et les relations internationales. Nous allons parler de l'organisation de coopération de Shanghai, que l'on appelle plus couramment l'OCS. Donc l'OCS a tenu son dernier sommet en septembre 2025 à Tianjin en Chine. Et à l'occasion, plusieurs annonces importantes ont été faites, c'est notamment la création d'une banque de développement de l'OCS, des projets d'obligations communes ou encore une volonté de renforcer l'engagement et le partage dans des domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle ou les énergies. Donc pourquoi est-ce un sujet intéressant pour les sciences économiques et sociales ? Tout d'abord, l'OCS, c'est une vingtaine de pays. On ne va pas tous les énumérer, on va se contenter de parler des plus importants. Donc on a la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, le Pakistan, des pays d'Asie centrale et des pays d'Europe comme la Turquie. L'OCS est la moitié de la population mondiale et une part croissante de l'économie. Donc il y a bien là une volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire un monde où ce ne seraient plus les États-Unis et l'Europe qui domineraient les échanges commerciaux et financiers. Donc de la sorte, nous allons donc nous poser la question suivante. Dans quelle mesure l'OCS peut-elle devenir un acteur économique et social majeur face aux institutions dominées par l'Occident ? Donc un projet de coopération économique alternatif. Tout d'abord, pour continuer dans l'étude, il va falloir comprendre ce qu'est l'OCS. Donc créé en 2001, l'OCS avait à l'origine un objectif de sécurité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la région d'Asie centrale. Mais avec le temps, ces objectifs sont devenus beaucoup plus larges, notamment sur le plan économique. Donc l'OCS, un poids économique croissant. L'OCS, c'est quoi ? C'est environ 30% du PIB mondial et un peu plus de 3 milliards d'habitants, avec des acteurs majeurs comme l'Inde et la Chine, qui est un exemple que l'on va réutiliser plusieurs fois, donc qui sont deux puissances économiques majeures de l'organisation. C'est là où on fait un lieu de coopération qui pèse énormément. Donc les annonces du sommet de Tianjin. Donc plusieurs décisions montrent cette montée en puissance. Tout d'abord, on a la création d'une banque de développement de l'OCS, comme il a été dit précédemment, qui permettrait par les financements d'investir dans des projets d'infrastructure ou encore pour dynamiser les industries de certains pays. On a ensuite eu des propositions d'émettre des obligations communes afin de mutualiser le financement et de réduire la dépendance avec le commerce. Et ensuite, suit des discussions autour de la mise en place d'un système de paiement propre à l'OCS. Donc ici, le but est très clair, se débarrasser du dollar américain en Asie. Donc un projet de coopération économique alternatif. Donc comme vous le savez certainement tous, à l'heure actuelle, la plupart des institutions financières internationales, comme le FMI, donc le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, sont dominées par les États-Unis et l'Europe. Donc l'OCS ici veut créer ses propres outils financiers afin de contourner les sanctions et de s'affirmer comme un bloc indépendant. Nous allons à présent voir les enjeux et les limites vers un nouvel ordre mondial multipolaire. Donc il y a des enjeux positifs plutôt pour les pays membres. Donc on a le développement économique grâce à la banque de développement de l'OCS, des pays comme l'Iran ou d'autres pays comme d'autres pays d'Asie centrale plutôt vont pouvoir bénéficier d'investissements pour leurs infrastructures, leur énergie ou encore leur industrie. On a ensuite une diversification des échanges. Donc le but ici est, comme il a été dit précédemment, de ne plus dépendre du commerce avec l'Occident. Donc des pays comme la Russie, qui a été frappée par des sanctions économiques suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, pourrait écouler toute son énergie vers la Chine et l'Inde, qui sont deux pays très demandeurs en ressources. Par ailleurs, Donald Trump a menacé directement Moscou d'imposer des droits de douane s'élevant à 100% si la Russie continuait à diffuser exclusivement ses énergies vers l'Asie. Et enfin, il y a la baisse des inégalités. Donc des pays comme le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan, qui sont des pays beaucoup moins développés que les autres, pourraient bénéficier d'investissements. Ici, ces coopérations permettraient de favoriser la croissance économique, la création d'emplois ou encore l'amélioration des qualités de vie pour les pays membres. Il y a ensuite eu des coopérations technologiques. Donc ici, le but est de partager les innovations dans les domaines du numérique ou de l'intelligence artificielle, comme il a été dit. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, on a la création de DeepSeek, qui fait directement front à ChatGPT, qui est du coup le géant de l'intelligence artificielle américain, ou des énergies renouvelables. Donc comme vous le savez certainement, l'Inde et la Chine sont deux pays avec les densités de population les plus élevées au monde, et donc deux des pays qui émettent le plus de CO2 dans le monde. Donc ils ont un intérêt primordial à favoriser l'environnement dans les nouveaux débats. Donc nous allons à présent parler des limites et des obstacles. Donc en effet, les pays membres font face à des obstacles. Tout d'abord, on a les divergences internes. Je vais prendre l'exemple encore une fois de la Chine et de l'Inde, qui sont constamment en concurrence, voire en conflit vis-à-vis des frontières et des influences régionales. Donc il faut savoir que l'Asie, et plus particulièrement l'Asie méridionale, donc l'Asie de l'Est, est une région géopolitiquement très fragmentée, avec des pays du tiers-monde qui tiennent des positions très controversées vis-à-vis des frontières. Je vais prendre l'exemple de la Chine, avec Taïwan, le Tibet ou encore le Bhoutan, ou un conflit qui perdure dans le temps entre l'Inde et le Pakistan vis-à-vis de la région du Cachemire. On a ensuite les différences de développement. On a des pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan qui sont des pays beaucoup moins développés que les autres, donc ce qui pourrait renforcer leur dépendance aux grandes puissances. Et enfin, on a un manque de crédibilité. Donc les projets de banques d'investissement, enfin de banques de développement, d'obligations communes ou encore de systèmes de paiement propres à l'OCS sont très ambitieux certes, mais sont très incertains. Donc à présent, nous allons parler des conséquences géopolitiques et sociales. Si l'OCS parvient à créer ses institutions financières, cela pourrait donner lieu à un nouvel ordre économique mondial, enfin un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire un monde où, enfin un monde qui ne serait plus centré sur Washington ou Bruxelles. Et d'un point de vue social, cela pourrait réduire les inégalités en Asie, mais aussi créer des tensions si les bénéfices sont mal répartis. Donc pour conclure, l'OCS illustre une tendance de fond, la montée en puissance de l'Asie et la volonté de nombreux pays de ne plus dépendre exclusivement du commerce avec l'Occident. Donc les annonces du dernier sommet de Tianjin montrent que l'OCS veut se doter de ses propres outils, de ses propres instruments financiers, économiques et technologiques. Et si elle y parvient, elle pourrait devenir un nouvel acteur économique mondial et serait capable d'offrir une alternative au FMI ou à la Banque mondiale. Cependant, on l'a vu, hein, cette organisation fait face à de nombreuses limites, à des obstacles. Donc on a les divergences entre les membres, le manque de mise en œuvre concrète ou encore les inégalités entre les membres. Donc pour l'instant, l'OCS est plus une ambition politique, économique, voire diplomatique qu'une réalité déjà aboutie. On peut par ailleurs comparer l'évolution de l'OCS avec d'autres organisations régionales comme l'Union européenne ou l'ASEAN, donc l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. La question finale maintenant est de savoir si dans quelques décennies nous assisterons à la coexistence de plusieurs grands pôles économiques capables de se concurrencer et de coopérer.
ActuTerm.
Vous venez de suivre une préparation à l'épreuve orale du bac. Très prochainement, on retrouvera d'autres élèves sur l'antenne d'InfoRC.